Bonsoir à toutes, bonsoir à tous dans Mondial Sport. Ce soir, l'avion jaune pour Tadej Pogacar, la décima du Al Ahly, des échos de Tokyo et de ces jeux presque interdits, sans oublier un portrait de celle qui rame pour de l'or, la porte-drapeau du Togo. Claire, Aïvon, Valentin Vaner et Thomas Ned, vous êtes prêts? C'est parti. L'hymne slovène, presque un refrain maintenant sur les Champs-Élysées où les cyclistes du 108e Tour de France ont donné leur dernier coup de pédale cet après-midi et où Tadej Pogacar, le petit cannibale, a pu lever les bras encore une fois sous les yeux de Frédéric Suto qui va d'ailleurs nous raconter tout ça. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Vous avez couvert avec Éric Chorin et Bertrand Éclair toute la grande boucle de Brest à Paris. On va s'attarder longuement avec vous sur ce tour encore passionnant. La deuxième victoire, bien entendu, de Tadej Pogacar, le Slovène, maillot jaune à Paris comme l'an dernier. Mais tout d'abord, revenons sur cette dernière étape. Mark Cavendish, privé du record d'une 35e victoire sur le Tour.
Et oui, on l'a vu une fois passer la ligne faire un geste rageur du poing. Hein. Mark Cavendish, elle était là pourtant Thomas, au bout des Champs-Élysées. Cette 35e victoire sur le Tour depuis le début de sa carrière, il en compte 34, comme Eddy Merckx, le Belge. Mark Cavendish, revenu de nulle part après 3 ans de doute, d'errance, ressuscité à 36 ans depuis le départ de Brest. Hein. 4 victoires d'étape au sprint, à Fougères, Châteauroux, Valence, Carcassonne, mais pas sur les pavés parisiens. En légère montée, Wout van Aert, le Belge, lui a damné le pion tout en puissance. Mark Cavendish qui n'a pas réussi à se faire emmener comme d'habitude par ses coéquipiers, hein, le fameux train de l'équipe de Koenig. Il s'est retrouvé un petit peu enfermé, pas loin des barrières, troisième du sprint seulement. Jasper Philipsen, le Belge, s'est tant intercalé. Reverra-t-on Thomas Mark Cavendish sur le Tour? Pas sûr, hein, on l'a dit, il a 36 ans, même si sa forme et est resplendissante. En tout cas, bravo à lui. Il termine avec le maillot vert de meilleur sprinter. Et finalement, bien qu'il ne dépasse pas Eddy Merckx, le mythe belge, 5 Tours de France dans les années 70, 34 victoires d'étape pour tous les deux, c'est peut-être pas plus mal comme ça.
Et vous l'avez dit, ouais, c'est Wout van Aert, le belge, qui prive Cavendish du record, qui règle tout le monde au sprint. La preuve qu'il peut gagner sur tous les terrains, lui. Hein.
Ah oui, et peut-être qu'un jour il gagnera le Tour de France. Wout van Aert, hier à cette même heure, nous dressions ses louanges après sa victoire dans le contre-la-montre individuel de Saint-Émilion, les 30 kilomètres dans le vignoble bordelais. Et souvenons-nous qu'il y a 11 jours, il s'est imposé à Malocène, au bout de l'étape dantesque sous la chaleur, où les coureurs ont monté deux fois le Mont Ventoux. Wout van Aert, c'est le prototype du coureur moderne, complet, cette force brute, forgée dans les labours du cyclo-cross, et il s'invite désormais au bal des sprinteurs.
C'est incroyable, c'est presque unique, je pense, gagner 3 étapes comme ça. C'est difficile à réaliser maintenant, mais je pense que c'est une étape historique dans le Tour, donc ça fait beaucoup pour moi. La semaine va passer vite, je pense, mais ouais, c'est toujours bien d'avoir un nouveau objectif, mais d'abord, je veux profiter de ce week-end extraordinaire.
Et oui, à peine le temps de souffler, il va s'envoler pour le Japon. Van Aert, les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est le cas d'une grande majorité des coureurs qui ont fait le Tour, hein, Thomas. En tout cas, vu sa forme ces derniers jours, Wout van Aert, il fera partie dans une semaine des grands favoris pour la course sur route.
Le maillot jaune, on y arrive maintenant. Il n'a que 22 ans, il s'appelle Tadej Pogacar, il s'adjuge donc un deuxième Tour de France. Rien à dire, il a maîtrisé la course de bout en bout.
Oui, époustouflant, Tadej Pogacar qui, comme Wout van Aert, a remporté 3 étapes. Alors la première, c'était le contre-la-montre, le 5e jour à Laval. Et puis dans la dernière semaine, hein, les 2 arrivées au sommet dans les Pyrénées, Col du Portet, Luzardiden. Il gagne ces 2 étapes pyrénéennes devant les 2 coureurs qui l'accompagnent sur le podium, hein, Jonas Vingegaard, le Danois, et Richard Carapaz, l'Équatorien. Mais c'est bien dans les Alpes, hein, qu'il a creusé des écarts monstrueux, Tadej Pogacar, l'étape du Grand Bornand qu'il n'a pas gagné, mais où il a relégué ce jour-là tous ses principaux rivaux à 4 minutes et plus. L'an passé, Le Slovène ne s'était emparé du maillot jaune que la veille de l'arrivée. Hein. Il l'avait chippé à Primoz Roglic, son compatriote qui avait craqué dans le dernier contre-la-montre. Et bien cette année, Tadej Pogacar a couru en patron, même s'il n'aime pas bien ce mot. Il aura porté le maillot jaune 13 jours et Jonas Vingegaard, le deuxième, finit à 5 minutes 20 secondes. On va écouter Tadej Pogacar. On lui a demandé s'il avait vécu ce tour 2021 comme celui de l'an passé, 2020.
Je ne saurais pas dire lequel des deux a été le plus difficile à gagner. Mes deux victoires sont différentes, ce sont deux années différentes. L'an passé, finalement, il y avait moins de stress. Alors que là, avec le maillot jaune tous les jours, les conférences de presse et tout ce qui va avec, il y avait plus de pression à gérer. C'était plus difficile de faire le vide. Les deux tours ont été difficiles à gagner. Ça roulait très vite, tous les jours, cette année. Mais l'an passé aussi, vous savez. Donc pour moi, je dirais que c'était plus ou moins la même chose.
Voilà, Tadej Pogacar et l'hymne de la Slovénie qui a retenti donc sur les Champs-Élysées autour de 20h avec le soleil hein, couchant derrière l'Arc de Triomphe. Quel regard, Thomas, les autres coureurs portent sur le Slovène? Bien, ils reconnaissent tous sa supériorité. Il n'y avait pas photo cette année, d'autant plus que plusieurs favoris ont déjoué. Primoz Roglic est tombé et a abandonné. Geraint Thomas a traîné sa peine tout le tour après une chute également et une luxation de l'épaule. Tadej Pogacar, au-dessus du lot, c'est ce que nous dit le Français Guillaume Martin.
L'an dernier, il avait quoi, 21 ans. Là, il a 22 ans, donc c'est un coureur d'expérience maintenant. On a parlé aussi de son équipe qui était peut-être faible. C'est vrai que c'était pas la même domination que Ineos ou Jumbo. On sentait qu'il y a, notamment en début de course, voilà, il laissait la course se faire, quitte à se faire piéger comme l'étape du Creusot. Et c'est pour ça que les débuts d'étape étaient toujours très, très mouvementés. Je pense que c'était bien pour le spectacle. Après, sur son niveau physique, voilà, il était une jambe au-dessus de tout le monde. Je pense que ça s'est vu. Ouais.
Et une jambe au-dessus de tout le monde. Guillaume Martin avec Éric Chorin.
Le Tour des Français, on n'a pas encore parlé. Guillaume Martin, justement, premier tricolore au général, il termine 8e de ce tour.
Oui, il grignote un peu chaque année, hein, Guillaume Martin. 12e du général en 2019, 11e l'an passé, le voilà 8e. Alors, il ne cache pas que cette année, avant le départ, c'était surtout une victoire d'étape qu'il visait, mais 8e du tour, quand même, ça ne se refuse pas, écoutez-le.
Le premier français, c'est un peu anecdotique, mais 8e place, c'est une vraie satisfaction. J'ai défendu chèrement ma peau. Cédric Vasseur avait annoncé, vous vous rappelez, il y a quelques années, top 5. On l'avait pris pour un fou, moi le premier. Je m'en rapproche, je vais rester très modeste. Je pense que la marche est encore très haute, mais en tout cas, je suis heureux d'avoir cette progression régulière et je continue à travailler.
Guillaume Martin, 8e, on savait hein, de toute façon qu'a priori, les Français ne pourraient pas jouer la gagne, au général.
Oui, d'autant plus que cette année, Romain Bardet, Thibaut Pinot n'étaient pas là. Julien Alaphilippe, lui, bien, il a fait ce qu'on attendait de lui, le champion du monde. Il a commencé très fort, victoire le premier jour, maillot jaune en haut de la bosse de la fosse au loup. On l'a beaucoup vu travailler également pour Marc Cavendish. Les autres Français, bien, ils étaient très souvent dans les échappées, mais pas de victoire d'étape. C'est le cas de Franck Bonamour pour son premier Tour de France. Il a été désigné super combatif du Tour.
J'aurais jamais espéré ça au départ du Tour de France. Pour moi, c'est vraiment une super belle nouvelle. Ça récompense pas mes efforts. J'ai donné du cœur à l'ouvrage et ouais, je suis très content. Je suis quelqu'un de très discret. Après, sur le vélo, c'est pas du tout ma personnalité. J'aime bien voilà, l'avant et puis voilà, bousculer un petit peu mon naturel et être offensif, faire le vélo que j'aime, prendre des risques. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Après, voilà, j'aurais aimé peut-être une victoire, un podium, mais ce sera, j'espère, dans quelques années.
Franck Bonamour qui termine 22e du Tour, 22e à plus d'une heure de Tadej Pogacar.
Frédéric, pour conclure, j'ai envie de vous demander là où les images que vous retiendrez de ces 3 semaines, un peu plus de courses.
Il y en a beaucoup, vous imaginez, hein, c'est même la magie du Tour, ce serpentin, cette course qui se déplace tous les jours de ville en ville, et les images fortes d'un jour, elles sont chassées par les images tout aussi belles du lendemain. Mais on n'a pas parlé de Mathieu Van Der Poel, le Néerlandais. Ça nous semble déjà loin, mais il a ébloui de tout son panache la première semaine du Tour. Le maillot jaune à Mur de Bretagne, ce maillot que son père a porté une journée en 1984, puis que son grand-père Raymond Poulidor, Poupou, héros de la France des années 70, n'a jamais porté. Il a quitté le Tour lors de la première journée de repos à Tignes pour mieux préparer les épreuves de VTT des Jeux de Tokyo, mais on le reverra sûrement, Mathieu Van Der Poel. Et puis, la belle histoire, même s'il a terminé hors délai, de Nicolas Dlamini, le Sud-Africain, premier Sud-Africain noir de peau à participer au tour, arrivé à Tignes, transit froid, meurtri après une chute, mais qui a tenu à terminer, même une heure et demie après le vainqueur, Ben O'Connor. Et puis, dernier mot, Thomas, on parlait de Sud-Africain, il y en a un qui termine 14e du général ce soir, Luis Menchès, il est très discret, il a déjà fait beaucoup mieux, 8e en 2016 et 2017, mais il est là, dans le top 15.
Et bravo à lui, bravo aussi à tous les coureurs, les suiveurs, l'équipe de RFI dont vous faisiez partie, Frédéric, et surtout bon repos à tous, c'est mérité. Lui n'a pas besoin de repos. Il est là avec la fougue de sa jeunesse, de ses 22-23 ans. Sofiane Amazian, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Avec vous, on part en Afrique pour parler de football. L'Afrique du Sud, précisément, Port Elizabeth, où les Bafana Bafana ont remporté à domicile la 20e édition de la Coupe de la COSAFA face au Sénégal.
Ah oui, une victoire à l'arraché au tir au but face au Lyon. Le match a clairement eu du mal à s'emballer, Thomas. Peu d'occasion. Beaucoup d'arrêts de jeu en témoignent l'exclusion du sélectionneur sénégalais Joseph Koto. Les Bafana Bafana ont dû prendre leur mal en patience et attendre les tirs au but pour glaner leur 5e titre dans la compétition.
Et dans cette séance de tirs au but, d'ailleurs, Sofiane, un joueur s'est fait remarquer. Pas vraiment pour de bonnes raisons, c'est le gardien de but des Lions, Pape Sédou Ndiaye.
Ah oui, le capitaine sénégalais est passé par tous les états dans ce tournoi héroïque en demi-finale vendredi face à l'Eswatini en stoppant 3 tirs au but durant la séance de pénalty. Pape Sédou Ndiaye n'a pas eu la même réussite cet après-midi, irréprochable pendant le match. Le gardien a même stoppé un tir au but adverse, mais cela n'a pas suffi. Le score est de 5-4 pour les Sud-Africains. Pape Sédou Ndiaye s'élance et envoie son tir au but en tribune.
Défaite cruelle pour le Sénégal, pourtant auteur d'un parcours historique dans cette coupe.
Ah oui, historique Thomas, parce que c'est la première fois tout simplement qu'une équipe nationale invitée d'honneur du tournoi réussit à se hisser en finale. Une fierté pour le sélectionneur des Lions, Joseph Koto, au micro de Babacar Fall.
Je suis très content de mes garçons, parce qu'aujourd'hui personne ne pouvait miser qu'on allait amener l'équipe d'Afrique du Sud à 120 minutes. Mais moi je dis que bon, ça a été un bon match de football. Je félicite l'équipe d'Afrique du Sud, parce que vraiment ils ont une très bonne équipe, ils ont fait un bon match avec nous. Moi je pense que ça a été un bon tournoi. Nos jeunes se sont très bien comportés. Vraiment, je suis très fier de ces garçons. Je les félicite. Ils n'ont pas à baisser la tête, ils n'ont qu'à lever la tête. Et je demande à tout le peuple sénégalais de venir les accueillir, de les applaudir, parce que vraiment, ils ont été héroïques.
Et oui, gardez la tête haute pour ces jeunes joueurs qui joueront sûrement d'autres grandes compétitions à l'avenir.
Merci beaucoup, Sofiane. L'autre finale du week-end sur le continent africain avait lieu hier à l'Ahly Kaizer Chiefs, duo, ou plutôt duel au soleil de Casablanca pour une Ligue des Champions. Et comme l'an dernier, comme Pogacar sur son vélo, le club égyptien s'impose à l'arrivée pour le doublé. 3-0, rien à redire concernant le score. C'est la 10e Ligue des Champions dans l'armoire XXL du géant Kérot. Pour en parler ce soir, un spécialiste, une voix que vous connaissez sur RFI, Franck Simon, que vous pouvez bien sûr entendre régulièrement dans l'émission Radio Foot International. Bonsoir Franck, ça y est, 10 étoiles, la décima pour Al Ahly, et c'est tout sauf une surprise sur le match et sur l'ensemble de la campagne continentale réussie par le tenant du titre.
On va dire que c'est une équipe qui sait justement manier la patience, l'intelligence aussi, et ils savent à quel moment il faut accélérer. C'est une équipe qui a procédé comme ça durant toute la campagne, donc il n'y avait pas de raison qu'ils changent leur plan de bataille. L'expulsion de Happy Machiané dans le temps additionnel de la première période leur a permis peut-être de marquer plus rapidement. Moi, je reste persuadé que voilà, il y avait bien 2 à 3 buts d'écart entre ces deux équipes et que tôt ou tard, les Kaizer Chiefs auraient craqué.
C'est donc la 2e Ligue des Champions de suite pour Al Ahly, la 10e en tout. Ça fait 5 de plus que le Zamalek, 5 de plus que le TP Mazembe, là aussi en termes de palmarès. Al Ahly est seul au monde, seul en Afrique en tout cas.
Totalement, c'est une équipe qui écrase la concurrence. Mais c'est pas une équipe arrogante de ce point de vue-là, hein, malgré tout. C'est une équipe qui construit patiemment ses succès. C'est une équipe, je trouve, assez panafricaine aussi, quelque part, qui n'hésite pas à recruter à l'étranger. Sur la feuille de match, il y avait un Tunisien, il y avait un Congolais, il y avait un Malien, il y avait un Nigérian. D'ailleurs, certains d'entre eux ont été même titulaires ou sont entrés en cours de jeu. Donc c'est une équipe, franchement, qui a une belle gueule de vainqueur, qui écrit son destin, et dont je me dis qu'il sera bien compliqué d'aller la chercher la saison prochaine, quoi. Elle n'a pas vraiment d'équivalent pour l'instant sur la scène continentale.
Ces succès récents, ils sont aussi signés du M de Mosimane, Pitso Mosimane, l'entraîneur sud-africain qui avait déjà emmené les Sundowns de Pretoria au sommet en 2016, et qui est l'architecte de ce Al Ahly version 2020-2021.
Il s'est mis dans les chaussons du Suisse René Weiler, qui était en fait jusqu'à septembre 2020 l'entraîneur du Ahly. les a repris, il les a qualifiés pour la finale, ils ont remporté la finale de l'année passée. Il a enchaîné avec la victoire en championnat, la coupe, etc. En fait, il a complété le travail commencé par Weiler. Après, on sait que c'est un technicien qui est assez pragmatique. Clairement, depuis qu'il est arrivé, ils ont continué à remporter des titres. Il y a eu un joli parcours en Coupe du Monde des clubs avec une troisième place. Ils ont remporté la Supercoupe contre Berkane. Moi aussi, l'année, voilà, il est en train de marquer son passage sur ce banc. Il est venu pour ça et pour l'instant, ça marche.
Ce qu'il leur reste peut-être aussi à accomplir, même si c'est vrai qu'il y a eu cette belle troisième place lors de la dernière édition, c'est un vrai grand parcours en Coupe du Monde des clubs. En ont-ils les moyens? C'est un petit peu la question.
Honnêtement, ça me paraît compliqué quand on connaît l'adversité sud-américaine et européenne. Le fait d'avoir été troisième, c'est pas la première fois d'ailleurs pour les LA qui termine à la troisième place, c'est quand même pas mal. Mais quand vous jouez en demi-finale le Bayern, vous montrez vos limites aussi. Ça a été le cas effectivement cette année, lors de la dernière édition. On ne sait jamais effectivement, comme on dit parfois, sur un malentendu, ils arrivent à tenir l'adversaire en échec suffisamment longtemps et le pousser lors d'une séance de tir au but. Mais malgré tout, je pense que voilà, il leur reste encore une petite marge pour éventuellement, je dirais, prendre la médaille d'or en Coupe du Monde des clubs. En revanche, pourquoi effectivement pas s'interdire d'envisager une finale? Il y a eu d'autres clubs africains qui l'ont fait, il y a eu Mazembe par exemple, mais il faudra aussi en passer par un renouvellement de ses... Je trouve toujours aussi relevé, mais vieillissant.
Peut-on imaginer, même si vous parlez de cadre vieillissant, voir des joueurs de cette équipe, pourquoi pas briller à une autre échelle, c'est-à-dire un club, dans un club européen par exemple?
Oui, oui, c'est envisageable. Je pense par exemple au Malien Aliou Dieng, mais qui n'était pas titulaire en finale. Je pense à l'attaquant Mohamed Chérif, qui a fini meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Je pense au Marocain Badr Bennoun, qui est venu du Raja l'année passée, qui est une des forces vives de ce Heli 2021. Au milieu de terrain, vous avez aussi un autre joueur international égyptien, qui est Amr El Soleil, pourrait très bien jouer en Europe. Honnêtement, il y a 4, 5, 6 joueurs qui auraient leur place dans des championnats européens. Je pense à des championnats comme la Belgique, comme les Pays-Bas, comme la France, comme la Turquie. Après, on sait très bien que le Heli ne bradera pas ses joueurs. Ce n'est pas du tout sa philosophie. Et qu'il faudra à chaque fois débourser 5, 6, 7, 8, 10 millions d'euros pour recruter ces joueurs-là.
Mondial Sport sur RFI. Thomas de Saint-Léger.
Tic-tac, tic-tac, le compte à rebours des Jeux Olympiques a quelque chose d'angoissant cette année, alors que la cérémonie d'ouverture est prévue dans 5 jours à Tokyo. Des cas de Covid ont déjà été détectés dans le village olympique malgré les mesures draconiennes mises en place. L'état d'urgence en vigueur depuis lundi dernier n'arrange rien. La capitale japonaise, oui, va bien accueillir l'événement, mais le cœur n'y est pas vraiment. Pour s'en rendre compte, on appelle tout de suite notre éclaireuse Cléa Broders, première envoyée spéciale de RFI sur place. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors on a connu plus gai hein, comme thème de carnet de bord, mais vous arrivez quand même avec une bonne nouvelle. Ça y est, vous êtes enfin sorti de votre quarantaine.
Oui, j'ai pu en effet sortir de mon hôtel après 2 semaines complètes en isolation. J'avais certes le droit de sortir 15 minutes par jour pour aller me chercher à manger, mais ce n'était pas suffisant pour avoir un aperçu de la ville même. Mais depuis vendredi, j'ai pu me balader dans tout Tokyo. Et la première chose qui m'a marqué, c'est le manque évident de publicité liée aux JO. Pour tout vous dire, c'est comme s'il n'allait pas avoir lieu en fin de semaine. Climat étrange, on connaît pourtant la liesse populaire qui entoure normalement des Jeux Olympiques. Et là, quasiment rien à signaler. On peut voir quelques étendards très petits sur certains poteaux de la ville, mais c'est tout. Pas de pub sur les bus, ni dans le métro. On peut parfois apercevoir les mascottes olympiques sur des immeubles et on se rend vite compte qu'ils sont affiliés aux JO. Mais attendons que la cérémonie ait lieu, ça donnera sûrement le ton et l'ambiance suivra.
Alors quand même, Cléa, vous avez pu rencontrer des gens intéressés par cet événement?
Oui, heureusement, on en trouve, notamment chez les bénévoles. Il y avait eu un certain engouement il y a quelques années, c'est-à-dire que pour 80 000 places de bénévoles, ils avaient reçu plus de 200 000 candidatures, ce qui est loin d'être un chiffre négligeable. Et cela montre l'intérêt des gens pour l'événement. Et au final, seules 10 000 personnes se sont désistées, la plupart du temps pour des raisons liées au travail, puisque le report d'un an a causé des soucis de calendrier. Mais en tout cas, pour ceux qui restent, c'est surtout la hâte du début des Jeux qui prime. Mai Tarumi est une bénévole venue de la région d'Ibaraki, au nord de Tokyo. Les cas Covid déclarés au sein du village olympique dans les derniers jours ne la font pas reculer pour autant.
Oui, bien sûr, ça m'inquiète, surtout pour les personnes autour. Mais après, je pense que même s'ils ne protègent pas à 100%, les gestes barrières, comme se laver ou se désinfecter régulièrement les mains, permettent quand même de réduire les risques de contagion et de se protéger. Même si je suis consciente des risques, je pense qu'il ne faut pas en faire toute une histoire. Des cas sont confirmés partout, donc il ne faut pas se concentrer uniquement sur ces cas-là et dramatiser la situation.
Kentaro Sawada, grand amateur de football, n'est pas inquiet non plus, surtout maintenant qu'il est vacciné.
La situation change constamment, mais au début, je n'étais pas du tout inquiet. Je suis aussi bénévole sur des matchs de football. La J-League a interrompu ses activités pendant un temps, au début de la pandémie, mais ça a vite repris, avec une limite du nombre de spectateurs et des mesures de prévention. Donc j'ai pensé que ça se passerait bien aussi pour les JO. Comme il n'y a pas eu d'infection liée aux matchs de la J-League, je n'avais pas peur et je suis rassuré. J'ai vraiment hâte que ça commence. J'ai hâte de jouer mon rôle de bénévole, mais aussi j'ai hâte de voir les épreuves. Comme je le disais, j'aime le sport, le football. Il y a eu la rencontre avec l'Espagne. Le premier match sera le 22, je crois. Donc j'ai hâte de voir ça. Et aussi la cérémonie d'ouverture. J'ai hâte de voir ce qui a bien pu être programmé.
Ces deux bénévoles espèrent qu'une fois lancés, les Jeux permettront d'alléger un peu l'atmosphère pesante du Covid. Ils pensent pouvoir faire vibrer la terre entière devant des Jeux, certes, peu ordinaire, mais pour eux, c'est avant tout l'occasion de rencontrer des gens du monde entier et de faire vivre la culture nippone.
Merci Cléa, à bientôt à Tokyo. Et pour mieux découvrir justement ces athlètes du monde entier, RFI vous emmène chaque jour à la rencontre de l'un d'entre eux. Aujourd'hui, une porte-drapeau au bras de fer, ça tombe bien, la rameuse togolaise Claire Aïvon, 25 ans, engagée dans l'épreuve du 2 km skift d'aviron, son portrait signé comme l'on éclou.
Il n'est pas facile d'être sportif de haut niveau dans une communauté où la place réservée aux femmes se trouve au foyer. Claire Aïvon en a fait la dure expérience et a subi des critiques.
Les gens disent que toi, tu es déjà âgé pour faire l'aviron. Tu continues, tu vas devenir quoi après? Moi, j'adore le sport. C'est pour cela que j'ai continué et je suis toujours dans l'aviron.
C'est de manière fortuite qu'elle a découvert l'aviron il y a de cela 7 ans.
Moi, je suis de Togoville et j'ai vu des gens s'entraîner sur le lac et je suis rentrée dedans par hasard. Pour moi, c'était un jeu, mais je suis une professionnelle aujourd'hui.
Son parcours, selon M. Anani Messon, secrétaire général de la Fédération togolaise d'aviron et de canoë-kayak, est jalonné de sacrifices.
Vous-même, vous savez déjà, à 25 ans, déjà aujourd'hui, les filles sont au foyer, mais elle, autre, elle a refusé. Et chaque temps, c'est des pressions des parents. Et même, c'est compte tenu de l'aviron qu'elle a cessé ses études. Parce qu'elle a eu le BPC. Elle devait encore aller de l'avant. Mais chaque temps, elle est toujours en voyage.
À force de courage et d'abnégation, Claire Aïvon a percé sur le plan national et international. Pour son coach, Miguel Kofi, c'est le résultat d'un travail acharné.
Pour gagner une seconde en aviron, il faut au moins 3 semaines de même exercice. Pour gagner une seconde, donc c'est un travail qui est très compliqué. Mais comme elle s'est donnée à fond, on a les résultats aujourd'hui. Actuellement, elle est à 8 minutes 02 secondes. Avant, en avril, elle est à 8h29 secondes.
Du coup, beaucoup de Togolais croient en elle. À commencer par le président de la Fédération togolaise d'aviron et de canoë et kayak, Emmanuel Fortuné Ayevi Negropé, qui salue sa qualification pour les JO intervenue le 13 octobre 2019 à Tunis.
Nous sommes très honorés parce qu'une fédération qui a fait qualifier une athlète sur minima, sur épreuve, c'est formidable. Claire Aïvon, c'est une fille très courageuse et elle va porter plus de 8 millions de dollars. Donc on est fiers d'avoir cette qualification pour les JO.
Le 5 juillet dernier, le directeur de l'Académie nationale olympique du Togo, Charles Panou, n'a pas hésité à lui offrir un important lot de matériel.
Nous voulons la motiver. Nous lui avons ouvert notre porte, notre magasin, pour qu'elle puisse choisir tout ce dont elle a besoin, tout ce qui pourrait lui être utile pour nous donner de bons résultats.
Ce n'est donc pas un hasard si elle a été choisie comme porte-drapeau et si Madame le Premier ministre, Victoire Tomé-Gadogbe, lui a personnellement remis l'emblème national. Un acte dont elle mesure la portée.
C'est une fierté pour moi de porter le drapeau togolais, de transporter tout le Togo aux Jeux. C'est une grande responsabilité.
À Tokyo, Clara Yvon espère suivre les traces de Benjamin Boupeti, qui a gagné la médaille de bronze aux Jeux de Pékin en 2008 en canoë-kayak. De préférence, elle table sur l'or.
On s'est ramené la médaille pour le Togo, ça c'est
sûr. Laquelle déjà ?
Médaille d'or.
Crédité d'un chrono de 8 minutes 02 secondes aux 2 km skiff d'âme, alors que les meilleurs temps se situent aux alentours de 7 minutes, la championne togolaise devra tout donner pour s'imposer dans la capitale japonaise, comme l'a écloué l'OMÉ RFI.
Les Jeux Olympiques dans 5 jours, donc les Jeux Paralympiques un mois plus tard, le 28 août. Et dans ces compétitions aussi, il y a des histoires humaines, des histoires de médailles et aussi des histoires un peu moins, un peu plus tristes, on va dire ça comme ça. Sarah Loubacouche, par exemple, ceux qui ne peuvent pas réaliser ce rêve olympique, qui y croyaient pourtant si fort. C'est le cas, par exemple, de Jean-Baptiste Alès. Sarah Lou, cet athlète français né au Burundi, survivant du génocide des Tutsis. Amputé d'une jambe, il brille dans le sprint et la longueur.
Oui, Thomas, Jean-Baptiste Alès, c'est une histoire humaine, sportive, hors du commun. C'est celle d'un survivant devenu champion. Il est né il y a 30 ans au Burundi, victime du génocide des Tutsis. À 3 ans, il est témoin du meurtre de sa maman. Lui est très grièvement blessé et laissé pour mort. Sa survie, elle est miraculeuse, mais elle lui coûte sa jambe droite. Il est alors adopté par un couple de Français. Il s'approprie une prothèse en carbone. Et là, l'histoire est en marche.
Il est même quadruple champion du monde maintenant, tenant du record du saut en longueur des moins de 23 ans.
Et après Londres et Rio, où il a participé aux Jeux Paralympiques, l'objectif était clair pour le prodige. Cette année, remporter une médaille paralympique. C'est la seule qui manque à son palmarès. Une victoire qui aurait couronné de succès une année qui a été très éprouvante pour lui.
C'était mon rêve. En plus de ça, j'avais eu le Covid fin avril. Je savais que je n'avais pas droit aux excuses. Donc je me suis donné à fond pour vite revenir. J'ai perdu 10 kilos. Et ma mère aussi, elle a fait un infarctus, donc mentalement, ça m'a touché. Donc j'ai quitté vite Miami pour vite revenir auprès de mes parents. Et malgré ça, je réalise la meilleure saison de tous les temps. C'était mon rêve et j'étais prêt, comme on dit, en 1903.
Oui, mais voilà, sa candidature n'a finalement pas été retenue par la Fédération Handisport, par le Comité Paralympique et Sportif Français aussi. Une décision que Jean-Baptiste Alès a bien du mal à comprendre, étant donné ses récents résultats, comme en jouant au championnat d'Europe.
Là, si je pouvais aller au Tokyo avec mon staff, avec mes sponsors, avec le maillot de mon club, ça aurait été mon plus grand bonheur. Là, c'est très décevant. Limite, je me dis, j'ai servi mon pays pour en arriver là à la fin. Ça m'a brisé le cœur. Je préfère avoir une grosse déchirure que me dire que j'ai été mis de côté sans raison. Je réalise la meilleure saison depuis 11 ans et j'avais vraiment tous les critères. Je suis dans le top 8, mais cette année, j'ai réalisé les meilleures performances parmi les meilleures. C'est inexplicable. Ça a été dur. Là, je suis en train de remonter la pente, mais j'ai l'impression que je tombe d'un étage, mais je ne suis pas encore arrivé au rez-de-chaussée.
Malgré le choc et cette déception immense, le champion tente toutefois de relativiser et de philosopher.
Je suis sans regret parce que j'ai franchi l'impossible. Ma plus belle victoire, ce ne serait pas de remporter la médaille à Tokyo, mais c'est de savoir l'homme que je suis devenu, qui a franchi les obstacles, même s'il y avait des barrières.
Et puis finalement, c'est clair, pendant les Jeux...
Je serai libre comme l'air, en vacances. Je ne vais même pas regarder tellement que je vais être écœuré. Encore plus. Je vais peut-être regarder la finale du saut en longueur, mais encore.
Et puis ces Jeux, Jean-Baptiste Alès les suivra de loin, peut-être aux États-Unis. C'est là-bas qu'il compte bien écrire une nouvelle page de sa carrière et de son histoire de battant qui n'est définitivement pas prête de s'arrêter.
Sacrée histoire, oui, merci. Sarah Lou, quelques secondes encore pour vous dire qu'en basket, Milwaukee, la franchise de Giannis Antetokounmpo et du Guinéen Mamadi Diakité se rapproche d'un deuxième titre NBA. Les Bucks mènent 3-2 face aux Phoenix Suns. En finale, un succès de plus. Et la bague de champion sera à leur doigt. Et puis en Formule 1, 99e victoire dans l'escarcelle de Lewis Hamilton, vainqueur chez lui à Silverstone d'une course un peu folle qu'il aura vu s'accrocher avec celui qui le devance toujours au classement pilote, Max Verstappen, contraint à l'abandon dans l'adversaire, dans l'affaire plutôt, le néerlandais furieux, il l'a dit sur Twitter, ambiance et suite au prochain épisode. Le prochain épisode de Mondial Sport, ce sera samedi prochain. On espère que vous serez là. À plus tard.